Alors bonjour, on se trouve avec Serge Lehmann, donc aux Utopiales. On voulait recueillir quelques ses impressions un peu sur le festival, comment ça se passe, etc.
Ben, ça se passe très bien, mis à part que j'ai eu un gros souci technico-scientifique hier, parce que mon train est arrivé avec 4 heures de retard, comme quoi le système technique du 21e siècle n'est pas parfait. Non, l'ambiance est... Moi je suis toujours fasciné par ce festival parce que j'ai assisté à son édition 0 en 98 ou 99, je ne sais plus, quand il était encore à Poitiers, à l'époque du Futuroscope, et qu'il était né du désir d'un homme, Bruno Della Chiesa, d'avoir comme ça un grand événement européen
de science-fiction,
sacré à la science-fiction. Il a été exaucé, c'est-à-dire qu'il avait lancé ce festival qui a eu lieu pendant 2 années à Poitiers, puis qui est venu ici. Et c'est toujours une expérience étonnante de voir à quel point il a réussi à communiquer l'enthousiasme au grand public, voir qu'il y a du monde, voir que les 6 rangs de chaises ou 8 rangs de chaises aux tables rondes sont toujours occupées entièrement, même à 10h du matin, même sur des sujets arides, que les dédicaces fonctionnent bien, et puis l'ambiance entre les auteurs est comme toujours très bonne, donc non, c'est un grand plaisir.
Et donc vous venez pratiquement tous les ans, c'est ça?
Non, je suis venu tous les ans à une époque, et puis je suis plus venu à une autre époque, et puis cette année je reviens, mais j'étais pas là l'année dernière, voilà, donc... Mais il y a à la fois, je vois des changements particuliers dans le milieu des auteurs qui se féminisent, qui se rajeunissent, ce qui est très agréable à voir. Et en même temps, il y a une grande continuité, c'est-à-dire qu'au fond, les problématiques des expositions et des tables rondes sont très constantes dans leur effort pour se communiquer au grand public. Mais c'est normal. Et il y a quand même une partie des choses dont on discutait il y a une dizaine d'années dans les tables rondes ou les conférences qui ne se discutent plus. C'est-à-dire que la question de la légitimité, la question de est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est une vraie littérature, comment faire pour se faire connaître, tout ça, ça a disparu parce qu'en fait, c'est des questions qui ont été réglées. Ça marche.
Tant mieux.
Oui.
C'est une bonne chose. Et pour en revenir un peu plus au niveau de la BD, par exemple, avec la Brigade Chimérique, il y a l'intégrale là, qui est sortie. Et est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet, sur ce que ça...
Bah, la Brigade, c'est une sorte de petit miracle. C'est une proposition que j'avais faite aux éditions de La Talente au moment où ils voulaient se lancer dans la bande dessinée. Je leur avais dit... L'archétype du projet que personne ne fera jamais, c'est de publier un comics en 12 épisodes qui raconterait la fin des super-héros européens, parce que je voyais à peu près quelle histoire il fallait raconter sur le sujet. J'y avais longuement réfléchi sur le traumatisme infligé à, disons, toute la thématique du surhomme par la Deuxième Guerre mondiale en Europe, mais seulement en Europe. Aux États-Unis, il n'y a pas de traumatisme, il y a un sentiment de victoire. Chez nous et sur le continent, surtout, il y a un sentiment de honte et de défaite sur le thème du surhomme. Donc pas de super-héros en Europe. Et je voulais raconter ça en faisant revivre pour l'occasion toute la mythologie des romans feuilletons de l'entre-deux-guerres. Et évidemment, les gens de La Talente se sont dit « Ah oui, formidable idée, quel dommage que personne ne fasse. » Voilà. Et puis en fait, ils se sont mis à y réfléchir quand même, parce que le thème était très fort. Et on n'a pas fait 12 comics comme j'avais rêvé, parce que c'est impossible, il n'existe pas de système éditorial pour ça en France. Quoi. Le comics en tant que tel n'existe pas. Mais 6 albums rassemblant chacun l'équivalent de 2 comics. Bon. Donc on a fini par le faire, en se disant « On va le faire. » Et puis il y a eu cette décision formidable de Jess, qu'on avait approché qu'il fasse une sorte de cadrage graphique. La Talente n'ayant pas beaucoup de moyens et la bande dessinée coûte très cher, Jess était une star, il était chez Delcourt, il a donné une série Carmen McCallum qui marchait très très bien, il n'était pas envisageable de le faire venir sur un projet comme celui-là, il y a un petit projet. Et en fait, ça lui a tellement plu graphiquement cet univers qu'il avait commencé à ébaucher comme ça pour voir un peu à quoi ça pouvait ressembler, qu'il a lâché Carmen McCallum et qu'il a dit « mais je viens, tant pis pour le prix, j'ai envie de faire cette histoire ». Voilà. Donc en fait, il y a eu une espèce de processus de miracle permanent qui fait que d'une rêverie réputée impossible, finalement, 3 ans plus tard, on avait les 6 albums. Et la rêverie et la chaîne des prodiges a continué puisque ces albums ont très bien marché. Il y a eu 2 prix, il y a eu un achat de droit par un éditeur américain, il y a eu l'adaptation en jeu de rôle et puis le tirage numéro 1 s'est épuisé. Donc on fait cette intégrale qui marche très bien et qui nous a permis d'aller au bout du projet et en fait de faire une sorte de livre qui soit aussi une malle au trésor, c'est un énorme livre avec plein de textes en plus, plein d'images en plus, voilà. Donc ça restera la Brigade Chimérique du début à la fin, ça restera une des plus belles histoires de ma vie de créateur. C'est vraiment une très très grande satisfaction.
Et la thématique continue avec Masqué sur les super-héros.
Oui, c'était la brigade, c'était une première manière, c'est-à-dire c'était une manière de dire il n'y a pas de super-héros en Europe.
J'ai le droit d'embrasser en disant que c'est toujours un putain de beau gosse.
Ça faudra
couper ça au montage.
Pas de problème.
Masqué. La brigade, c'était aussi, c'est le récit d'un traumatisme, c'est le récit justement du retournement du thème du surhomme qui dans l'entre-deux-guerres était tout à fait positif et considéré comme une sorte de figure et d'archétype normal de la fiction européenne, avec d'un seul coup sa démonétisation et même son retournement de valeur, c'est-à-dire que ça devient une figure du mal, le surhomme. Or moi j'ai une sorte de conviction, mais qui n'est pas une conviction très rationnelle, qui est plutôt je fais confiance à mes émotions lointaines d'enfance, quand je lisais Strange, quand je lisais Spider-Man, et que j'étais très triste qu'il n'y ait pas l'équivalent en France. Je suis persuadé, mais d'une manière que je pourrais rationaliser, mais c'est fatigant par avance, donc je ne vais pas. Je suis persuadé qu'une grande civilisation produit spontanément des figures de surhommes et de super-héros, comme la Grèce antique a produit Ulysse, comme le Moyen-Âge a produit des grandes figures comme le chevalier Bayard, ou Saint-Georges et le dragon, ou évidemment toute la matière de Bretagne, Lancelot, etc. La grande civilisation européenne à son apogée à la fin du 19e siècle, elle produit le capitaine Nemo, Sherlock Holmes, Fantomas, des figures comme ça. Et on est là, nous, on est en 2012 et on n'aurait pas le droit en Europe d'avoir des figures comme ça. Je trouve ça très triste. Donc, la brigade était une manière de raconter le traumatisme et de dire voilà pourquoi on n'en a pas. Mais une fois qu'en principe, en psychanalyse, quand on a fait face à un traumatisme, on est capable de passer par-dessus et de réamorcer un processus vital confortable et normal. Donc Masqué, c'est effectivement la suite non pas narrative mais logique de la brigade, c'est-à-dire qu'on a réglé la question du pourquoi il n'y en a pas, maintenant il faut donc qu'il y en ait. Et donc on essaie de raconter le retour d'un super-héros à Paris, sachant que Paris c'est pas exactement le Paris dans lequel on connaît, dans lequel on vit aujourd'hui, mais Paris métropole, une sorte de métropole hypothétique qui aurait réalisé tous les projets délirants des architectes du concours du Grand Paris qui sont souvent formidables.
Et vos projets alors pour la suite ?
Alors pour l'instant il y a beaucoup de projets BD, mais j'ai quand même un roman en cours d'écriture. Ça fait 12 ans que j'ai pas écrit de roman, donc ça commençait à me tarabuster, donc ça monte. Mais les projets très concrets à l'horizon immédiat, c'est donc la suite de Masqué, deux autres albums en janvier et avril. Et Guy Delcourt, qui est content de la série, a déjà validé le procès, enfin l'idée qu'il y en aurait deux autres après, au moins deux autres. Voilà, donc on continue. Et puis la brigade étant ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui a une vraie légitimité. La Talente nous a permis avec Jess de faire un autre album qui sortira en mars, qui s'intitulera L'Homme Truqué, qui est donc situé en 1919 dans le même univers, au tout début, en fait, après la Première Guerre mondiale. On voit Marie Curie, on voit le jeune Nick Talop. Et l'histoire est inspirée du roman L'Homme Truqué de Maurice Renard, qui est paru en 1901, qui raconte l'histoire d'un surhomme né sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Et l'album est splendide au point de vue graphique, Jess n'a jamais fait mieux, il y a des images qui resteront longtemps dans les mémoires, donc j'ai vraiment hâte que ces livres sortent.
On a hâte de voir ça aussi.
Merci.
Et au
Merci.
Niveau des romans de science-fiction, est-ce que vous avez un roman favori justement?
En fait, je suis dans une position étrange sur ce genre-là, parce que y a les romans parce que j'ai tout lu jusqu'en l'an 2000 à peu près, c'est-à-dire, en gros j'ai tout lu. Mais je crains terriblement de relire.
D'accord.
J'ai pas envie de relire des livres et de m'apercevoir que mes enchantements d'enfance ou d'adolescence, au fond, maintenant que j'ai 48 ans, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit, je suis pas sûr que ça tienne le coup. Voilà. Donc je préfère rester amoureux des émotions d'autrefois et de pas vérifier. Il y a quand même des romans, des grands romans qui tiennent le coup. D'abord, un auteur comme Jack Vance, par exemple, je trouve, est à peu près inusable. C'est-à-dire qu'il a une générosité, une simplicité dans sa narration et une fertilité dans l'invention des sociétés, des mondes imaginaires, que son écriture, qui est finalement assez fine, tient ça très bien. Quoi. Je reste assez amoureux de Jack Vance en ayant relu quelques-uns. Je reste très fan de Dick, encore, vraiment, autant des nouvelles que des romans. Je trouve que ça reste une des grandes œuvres que la science-fiction a pu produire et... À mon avis, plus ça va, plus on va se rendre compte que ça a été le Kafka américain. Quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a mis des mots et des images sur des émotions très profondes que crée la société contemporaine, la paranoïa, le sentiment de la dépossession, du dédoublement d'identité, le doute sur l'impression de réalité, en disant non, en fait tout ça n'est qu'une construction, la quête du divin dans l'ordure consumériste, tout ça sont des choses qu'on connaît aujourd'hui, qui deviennent des pathologies sociales très intenses et qu'il a vu dès les années 50. Donc c'est quand même un tour de force dans l'intuition. Il y a quelques œuvres comme ça qui restent très, très fortes. Et puis à côté de ça, moi je suis très passionné par le phénomène qu'on observe pratiquement à l'œil nu aujourd'hui et qui est l'intégration non seulement des problématiques de la science-fiction dans la littérature contemporaine, mais même de son esthétique. Je suis en train de lire un roman français qui est sorti à la rentrée qui s'appelle La théorie de l'information, de Bélanger. C'est très welbeckien, c'est une histoire de la théorie de l'information et du réseau Minitel français. C'est l'histoire des premiers geeks français, en fait. Et c'est très étonnant de voir que ce roman de littérature blanche décrit un univers qui est très très proche de celle de la science-fiction. Donc je me dis qu'il y a une grande partie, et ce qu'on disait au tout début en parlant des utopies, il y a une grande partie des réticences, des murs, des frontières soi-disant étanches entre les genres qui sont tombées. Et c'est très bien, c'est le destin normal de la SF. Elle est née de façon totalement marginale. Pendant tout le XXe siècle, elle a grandi en vase clos. Et aujourd'hui, c'est un instrument en état de puissance qui contamine l'ensemble du champ culturel. Je trouve ça formidable.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un chef-d'œuvre alors de science-fiction que vous n'avez pas encore lu et qui vous fait quand même bien envie?
Ah oui, c'est une très bonne question ça. Est-ce que j'ai pas encore lu? Je crois qu'il y a un roman de Jack Williamson, donc on remonte vraiment au pulp, c'est aux années 30. Il doit s'appeler Time Patrol, quelque chose comme ça, dont tout le monde a dit c'est un des meilleurs romans de voyage dans le temps et qui n'a jamais été traduit en français. Bon, je lis l'anglais, mais j'ai pas envie de le lire en anglais, en fait. Donc j'aimerais bien que ce livre se traduise. Je sais que c'est le grand roman de Jack Williamson sur le voyage dans le temps, et qui a la réputation aux États-Unis d'être aussi classique que La patrouille du temps de Poul Anderson ou les grands récits de voyage dans le temps. Donc j'aimerais bien voir ce roman traduit en français.
D'accord. Très bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas.
Merci à vous.
Bonne journée et bon festival.